Bonjour à tous, et je salue particulièrement ceux qui sont derrière leur écran. Voilà, ils sont loin physiquement, mais ils sont avec nous dans l'unité. Voilà, bienvenue. Je vais vous parler d'un sujet que vous ne connaissez pas, le confinement. En priant, quand André m'a demandé de préparer une prédication, je portais ça sur le cœur, évidemment, dans un esprit chrétien. Essayer de comprendre quelles leçons on peut tirer de ce confinement et du déconfinement d'ailleurs aussi, en tout cas en France, voilà, à travers mon ressenti, expliquer, essayer d'aller de l'avant, et vous verrez que c'est en lien avec ce qu'André vient de dire, ce qu'a vécu Christian Blanc, mais aussi d'autres, Samuel Peter Schmidt à Mulhouse, etc. Alors, nous avons, le premier point, c'est la période dans laquelle nous sommes encore, c'est une période trouble. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, il se trouve que je suis bénévole toujours à la protection civile, c'est-à-dire que je téléphone à des personnes à Paris, en banlieue, dont j'ai les numéros par les bailleurs sociaux, qui sont souvent des personnes âgées, seules, et pour certaines qui ont eu le Covid, et en tout cas qui ont des difficultés, qui sont handicapées, qui sont démunies. Alors, ce qui m'a frappé en téléphonant, mais j'imagine que je ne suis pas le seul, pendant le confinement, mais aussi à la sortie du confinement, c'est des personnes en plein désarroi, bon, forcément très vulnérables, mais qui ont un sentiment, je me barricade. Et encore aujourd'hui, un monsieur me disait l'autre jour, il n'avait pas forcément de problème de santé, mais il me disait, je reste sur mon lit, je ne sors pas, j'ai peur. Et derrière tout ça, j'ai senti, évidemment, vous en doutez, hein, des réactions de colère. Là, on porte des masques, mais à l'époque, il y avait des problèmes, un problème de masques. Et les gens étaient en colère contre le gouvernement. Bon, derrière tout ça, j'ai le sentiment, si vous voulez, que c'est une période révélatrice de ce que finalement nous sommes souvent. Là, c'est exacerbé. C'est comme une forme d'épuisement psychique, finalement. Une personne m'a dit, j'ai cru mourir, j'ai fait des cauchemars, je perdais la mémoire, etc., etc. Bon. Alors ça, c'est le premier point, c'est ce que j'appelais une crise psychique, enfin des gens qui peut-être avaient déjà des difficultés avant, mais qui là, ces difficultés finalement se sont révélées, avec un sentiment d'inquiétude très fort et une angoisse. Voilà. Alors la seconde crise, évidemment, vous le savez, c'est la crise sociale économique qui prend forme, et on parle de maintenant 800 000 suppressions de postes dans les prochains mois. Bon. Et vous savez qu'en septembre, 700 000 jeunes vont se présenter sur le marché du travail en France. Et pour moi, ce qui m'a frappé aussi, on en parle moins, mais ce qui me frappe là, c'est je dirais, une forme de crise morale qui existait avant. Vous savez bien qu'en France, il y a de la fraude fiscale, sociale, etc. Mais là, l'État donc a permis à un certain nombre de personnes donc d'accéder à un chômage partiel. Bon, et en France, je crois qu'on a bénéficié d'un large soutien de l'État, enfin les personnes qui auraient pu plonger, ont pu, je dirais, rester à la surface. Alors il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris, la justice, et qui dit, il est question de fraude massive, c'est le mot employé, les fraudes massives au chômage partiel. Et elle s'élève, vous savez à combien? 1,7 million de préjudice, 1,7 million. Bon, alors, on aurait pu se dire, pendant toute cette crise, on va se serrer les coudes, on va faire en sorte d'être rigoureux dans notre comportement et courageux, mais voilà, il y a vraiment un problème de ce côté-là aussi, et au-delà de ce que je vous ai dit, je crois que parfois il faut employer des mots qui sont forts et qui parlent, et on peut comprendre les personnes en difficulté, bien sûr, en raison de cette crise. Mais parfois, on a l'impression, si vous voulez, de ce qu'on appelle une victimisation. C'est-à-dire, je suis vraiment au plus bas, et je reste au plus bas, et quelque part, je n'ai pas la volonté de m'en sortir, comme un manque d'ambition. Michel parlait l'autre jour, au cours d'une réunion de prière, d'un monde où l'espoir diminue à vue d'œil. Et c'est le sentiment, quand vous écoutez un certain nombre de personnes, finalement, il n'y a plus d'espoir, et ça, c'est l'illustration de ce confinement que finalement, même s'ils ne le disent pas comme ça, elles ne le disent pas comme ça, mais En gros, tout est perdu. Même si j'ai des enfants, si j'ai des amis, mais la situation est bloquée. Alors le second point que je voudrais aborder, c'est justement par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est ça fait partie des leçons, enfin en tout cas une leçon que je retiens moi de cette période, il y en aura d'autres, mais c'est redonner du sens aux gens, redonner goût à la vie. Tout ne se vaut pas. Alors je me suis plongé dans la parole comme vous, j'ai pris l'exemple de Néhémie. Et par rapport à cette tendance à la victimisation, vous notez avec moi que Néhémie est un combattant. Il se tient sur la brèche. Il fait preuve de fermeté et d'ambition. Vous connaissez ce passage de Néhémie 4, dans lequel on voit que les ennemis des Juifs viennent attaquer Jérusalem. Et ils sont furieux parce que le peuple a commencé à fermer les brèches de la muraille. Alors les versets 8 et 9 du chapitre 4 dit « Alors nous priâmes notre Dieu et nous établîmes des gardes de jour et de nuit pour nous garantir de leurs attaques. » Là, il y a vraiment, on sent la clarté, on sent l'ambition de Néhémie, la volonté d'avancer et non pas de rester dans le fatalisme. Alors, Néhémie, qui est en relation avec Dieu, réinjecte de la foi, si vous voulez. Il remotive ses troupes. Et quand on est ensemble, comme ça, unis, sur la parole, dans la prière, le fardeau devient plus léger à porter. Parfois, donc les personnes dont je vous parle ont l'impression que tout semble vain, c'est plus la peine de se battre. Et non, il y a des combats qu'il est important de mener. On ne peut pas mener tous les combats. Lui, Néhémie, il a choisi ce combat. À Jérusalem. Et par expérience aussi, vous savez comme moi qu'il y a des personnes qui nous tendent la main. SOS, SOS, venez m'aider. Mais en parlant avec ces personnes, donc dans le cadre de la protection civile, des personnes me disaient merci, monsieur. Merci. Ce n'était pas uniquement par politesse. C'est parce que je pense que dans certains cas, elles n'ont pas l'habitude d'avoir simplement un coup de fil qui va durer quelques minutes, durant lequel simplement on les écoute. Elles savent qu'une personne, une autre personne va les appeler dans 10 jours, dans 15 jours. Ma vie a du sens quand je sais que je peux compter sur l'autre. Et une personne m'a dit, c'est gentil de prendre soin de nous. Vous savez ce qu'on a entendu souvent, prenez soin de vous. Mais on pourrait ajouter, prenez soin aussi de vous et des autres. En tout cas, il y avait une forme de reconnaissance durant ce confinement, c'est vrai, qu'on a vu dans les rues et à l'égard des infirmières, des postiers, des éboueurs, etc. aussi. J'ai vu dans le Proverbe 18, verset 19, vous pourrez chercher dans vos Bibles, alors moi c'est la traduction que je propose à partir du grec, Proverbe 18, verset 19. « Un frère aidé par son frère est comme une ville forte et élevée. » Il est fort comme un palais solidement fondé. C'est solide, ça. C'est du solide. Voilà, le troisième point, je voudrais aborder par rapport toujours à ce thème pour partir du confinement, du déconfinement. Vous avez été nombreux, je pense qu'on a été nombreux à écouter donc des prédications, Jean-Marc Taubois et d'autres. Avec Isabelle, on a écouté plusieurs fois les conférences de Jean-Marc Taubois qu'il a donné notamment début 2020, enfin juste un peu avant de mourir, et en 2019. Et il y a un point qui m'a marqué. Il a titré sa conférence « Le peuple n'écoute plus ». Mais il voulait dire « Le peuple de Dieu n'écoute plus la parole ». Alors, je vais vous citer Jean-Marc Taubois. Dieu est une parole qui retentit dans les oreilles de l'homme. Or, il est de plus en plus difficile pour nous d'entendre la parole de Dieu. Le diable cherche à nous fasciner pour que nous ne réfléchissions pas. Le diable fait de nous ses esclaves. Et il continue, Dieu veut que nous l'écoutions, que nous pensions à partir de sa parole. Alors évidemment, j'ai ouvert ma Bible, dans Jérémie 7, verset 2, il est dit, écoutez ce que dit l'Éternel, vous tous, hommes de Juda. Jérémie 17, verset 20 nous dit, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, ainsi que tout le peuple de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Donc c'est l'importance d'écouter. Maintenant, c'est l'importance de penser autrement. On pourrait dire le peuple de Dieu ne pense plus. En tout cas, bon, il est difficile de généraliser, mais on peut dire que on a tendance peut-être un petit peu parfois à se laisser aller dans ce domaine. Et là aussi, j'ai repris mes notes. On a eu la chance d'avoir quelqu'un comme Luc Bussière aussi qui est venu ici et qui nous a parlé vraiment de façon très pertinente et profonde dans ce domaine. Et il établit un état des lieux. Je fais toujours le lien avec cette période trouble que nous vivons. Alors je cite, il parle de défaite de la pensée, du glissement de la parole à l'image. C'est un peu l'exemple que donnait Michel tout à l'heure, le risque que donnait Michel. Alors elle parlait des enfants, mais ça nous concerne tous. L'image, la toute-puissance de l'image. Dévalorisation de l'écoute, de l'écrit, manque d'enracinement, culte de l'immédiateté. Bon, je crois que ça, je répète ce que Luc Bussière a dit, mais je crois que c'est important, on en reparlera, mais il y a là quelque chose de, oui, vraiment important, et je dirais, il y a urgence. Notre pensée manque d'enracinement. Alors, ce qui m'a frappé aussi pendant le confinement, moi j'allais sur le site de la Fédération protestante de France, sur le site du CNEF aussi. Il se trouve qu'il y a un pasteur que je connais qui tient un blog à la Fédération protestante de France, s'appelle Antoine Nouis. Et alors c'était toujours en lien bien sûr avec le virus. Et il a dit une fois dans son blog, il est théologien, il est pasteur, il a dit « Il faut que se lèvent des hommes et des femmes qui nous aident à penser. Il y va de la crédibilité des églises. » Et tout à l'heure, on parlait de fondement aussi, mais moi, j'ai le sentiment que, comme dit le psalmiste au chapitre 11, verset 3, chapitre 11 des psaumes, verset 3. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Et au verset 7, il est dit, face à cette question, les hommes droits contempleront la face de Dieu. Ils se tourneront vers sa parole. Voilà, je me réjouis en même temps. Donc, il y a ce contraste entre un certain fatalisme, une certaine passivité, puis des personnes, des responsables, des chrétiens qui disent, qui sont lucides et qui disent, il faut donc qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, qui nous aident à penser, et puis toute la question donc des fondements de notre société. Toute la question de la pensée. Moi, ce qui m'a frappé aussi, si vous voulez, durant cette période de confinement, je regardais des débats à la télé. Il y avait des débats très intéressants avec des médecins, bien entendu, mais aussi des historiens, des journalistes, des sociologues, etc. Et je me suis dit, il manque quelqu'un, là. Il manque un pasteur, un théologien, un prêtre, pourquoi pas. Mais les responsables qui auraient pu dire, justement, voilà ce qui nous fonde, sans faire de prosélytisme. Mais voilà, ce qui nous fonde, c'est la parole. Et je, vraiment, il faut prier pour qu'il y ait cette présence sur les plateaux de télévision. Et vous savez combien combien de personnes regardaient en France, donc durant en fin de journée, il y avait des débats très passionnants, mais voilà, il y avait beaucoup de Français qui regardaient ces débats et on aurait aimé qu'il y ait une présence officiellement chrétienne, j'allais dire, que clairement la personne soit identifiée comme telle et qu'elle puisse parler de la parole. Parce que, encore une fois, comme le disait Luc Bussière, donc notre pensée est coupée de Dieu trop souvent. Et face à cette confusion intellectuelle et morale dans laquelle nous sommes, donc il est urgent de former une pensée qui aime Dieu, une pensée qui est structurée par la parole et qui est purifiée par la parole, modelée par la parole. Alors j'en viens évidemment à la parole elle-même. J'ai trouvé une définition de l'écriture, j'aime bien parler de l'écriture avec une capitale, l'écriture, d'après des termes hébreux, c'est l'expression de la pensée du Dieu vrai. L'écriture, c'est l'expression de la pensée du Dieu vrai. Quand l'individu se vide, en tout cas il risque de se vider. Et quand la personne, on sent que la personne a identifié, elle ne le dit pas comme ça, mais on sent bien qu'elle est malheureuse parce qu'il y a un grand vide en elle, on se dit, mais quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, nous savons que la seule solution, c'est d'aller boire, comme dit la parole, au lait pur, aller boire au lait pur de la parole qui nous structure. Bon, et vous savez comme moi aussi que face au travail de sable de l'ennemi qui essaye de capturer nos intelligences, voilà, il est donc urgent de retourner à l'écriture, de méditer cette écriture, de la dévorer. La Bible, ça vient du grec biblia qui veut dire les livres. Et nous savons que le livre ou les livres, c'est l'excellence, c'est le livre par excellence, c'est les livres par excellence. D'ailleurs, la Bible était vue comme telle autrefois. Les chrétiens disaient, c'est vraiment le livre par excellence qui est supérieur à toutes les œuvres littéraires que nous connaissons. L'important de mémoriser la Bible pour renouveler nos intelligences. Nous savons que Jésus a payé le prix sur la croix pour que chacun reçoive une autre sagesse. C'est 1 Corinthiens 1, verset 30. Cette autre sagesse, c'est une autre intelligence, c'est un savoir-être, c'est un comportement répondant à la volonté de Dieu. Alors, 1 Corinthiens, verset 30, je vais vous le lire. Par Dieu, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Ce que j'aime bien, c'est pas le terme, c'est... J'écoutais Luc Bussière avec plaisir et j'aurais voulu que la France entière écoute Luc Bussière. Parce que il y a cette cohérence quand il parle du Seigneur. Enfin, quand il dit par exemple cette cohérence, c'est-à-dire que la parole prend en compte tout ce que nous sommes. Par exemple, Jésus, dit-il, est le Seigneur de ma vie intellectuelle et de sa cohérence. Jésus donne une cohérence à ma vie intellectuelle. Il définit la Bible en disant « La Bible nous apporte le soutien de la vérité pour toute la réalité. Toute la réalité à laquelle je suis confronté, j'ai le soutien de la vérité. Je ne suis plus dans le vide, dans la confusion. ou dans la victimisation. Moi, personnellement, je suis très sensible à la question de la cohérence. Et trop souvent, en France notamment, nous avons souffert de l'incohérence autour de nous, dans la société. Et aussi cette promesse de l'Écriture, cette affirmation de l'Écriture. L'Écriture est pertinente pour tous les domaines de la vie. C'est Luc Bussière qui dit ça, mais nous savons que c'est la vérité. L'Écriture est pertinente pour tous les domaines de la vie. Alors quand j'écoutais ces personnes auxquelles je téléphonais, je ne pouvais pas le faire bien sûr, mais j'aurais voulu leur dire, vous savez que la solution, elle est dans ce livre. Et parfois je sentais une demande implicite, une volonté de parler. Alors je parlais, mais je leur disais simplement, écoutez, quelqu'un va vous rappeler, mais voilà. En tout cas, ce qui était important dans l'immédiat, c'est que cette personne ait un soutien relationnel. L'Écriture construit ma foi. Elle forme mon caractère. Elle m'enracine sur le plan culturel et intellectuel. La vérité de la parole, l'importance de proclamer la vérité de la parole et l'importance de placer cette vérité de la parole au-dessus des circonstances, au-dessus de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous tombe sur la tête, c'est ce que les gens disent, le chômage, la pauvreté, la maladie, la solitude. Lamentations 3, versets 21 et 22. Lamentations 3, versets 21 et 22. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Verset 25. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Dans Deutéronome 32, verset 10 à 12, Deutéronome 32, verset 10 à 12, puisqu'il s'agit des circonstances, on parle des circonstances, voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel a trouvé son peuple dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui et l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Et il les a conduits. Steppe aride, hurlement. Mais il a pris soin de lui, il l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Alors ce que je voudrais partager avec vous, c'est ça, c'est... Je parle pour la France, mais notre peuple a besoin de nous, il a besoin de vous. Face à cet épuisement psychique, à cette perte de confiance, à cette perte d'espérance, et puis je dirais à cette incapacité d'aimer dans la durée, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il a besoin de notre mobilisation. Et je suis persuadé qu'il faut donner, comme on dit l'expression en français, donner l'eau à la bouche. Éveiller l'intérêt. Il faut que maintenant, la parole à la main, on puisse trouver des moyens d'expression peut-être nouveaux à l'ère du numérique pour que les personnes auxquelles on s'adresse en aient l'eau à la bouche justement, que ces personnes puissent saliver de gourmandise en lisant la parole. Je voudrais juste vous raconter quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un moyen d'expression. Ça, c'est un livre écrit par un romancier anglais. Il parle des guerres de religion. Alors, c'est la petite histoire, la grande histoire. C'est un roman historique, c'est-à-dire que la trame, c'est l'histoire, la grande histoire. Et puis, bien sûr, il y a des personnages fictifs. C'est un romancier. Mais écoutez bien, je vais vous lire deux passages. Ça se passe, là, en l'occurrence, en France. C'est avant la Saint-Barthélemy. On est à peu près en 1560. Il s'agit d'une famille protestante. Une famille protestante. Le père s'appelle Gilles, la maman Isabelle et la fille Sylvie. Et tous les trois tiennent une librairie papeterie, disons dans le quartier latin, à Paris. Et pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. Écoutez, la librairie du père de Sylvie était florissante. Et il est prévoyé d'en ouvrir une seconde sur la rive gauche de la Seine, dans le quartier de l'Université. Son commerce illégal de Bibles en français et d'autres livres interdits et était encore plus prospère. Il se passait rarement une journée sans que Sylvie, donc la fille, se rende à l'entrepôt secret de la rue du Mur, chercher un ou deux livres à vendre à une famille protestante. Les nouvelles communautés protestantes fleurissaient comme des campanules au printemps, à Paris et partout ailleurs. Moi, je suis ému quand je relis ça, parce que j'ai lu le livre aussi. Après ce passage que je vous ai lu, cette famille qui s'appelle la famille Palot, va vivre un calvaire. Le papa, le libraire, le patron, va être brûlé vif en raison de sa foi, parce que c'est un hérétique. Et qu'il est interdit de vendre des Bibles en français à ce moment-là. Alors Isabelle et Sylvie, la mère et la fille, sont aux abois. Elles ne savent plus comment faire pour vivre, pour survivre. Alors Isabelle, la maman, dit à sa fille, « Nous pourrions laisser tomber les livres et ne vendre que de la papeterie. » Et Sylvie répond, « De toute façon, cela ne rapporterait pas assez. Et puis je n'ai pas envie de passer ma vie à vendre du papier et de l'encre. Nous avons une mission à accomplir. Nous devons aider nos frères et sœurs à lire eux-mêmes la parole de Dieu et à trouver la voie du véritable évangile. Je veux continuer à le faire. » Et elle va continuer à le faire. Même si c'est un personnage fictif, on sait que avant la Saint-Barthélemy et après, il y a eu des héros de la foi comme cette famille. C'est un personnage, un prophète comme Jérémie, qui parle très bien de la parole de Dieu. Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16, il dit « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel. » Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel. Et on a envie de partager ça, bien sûr, avec les personnes dont je vous parlais, pour qu'elles soient dans la joie et le bonheur, et non pas dans la tristesse et dans le fatalisme. Le passage que je voudrais conclure avec ça, c'est Daniel 11, versets 32 et 33. Pour moi, c'est un passage qui illustre l'importance de la fermeté d'âme, je dirais la fermeté d'âme, de notre solidité, de notre droiture, et que toutes ces qualités soient en quelque sorte contagieuses en France. Daniel 11, versets 32 et 33. Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, et les clairvoyants parmi le peuple, c'est-à-dire ceux qui ont du discernement, enseigneront à beaucoup. Voilà, je voulais simplement vous partager ça en cette période troublée. Vous avez des amis, on a des amis qui au-delà des personnes dont je vous ai parlé, qui sont en état de demande, je dirais. Même s'ils ne l'expriment pas comme ça, mais ils ont besoin de nous, ils ont besoin de la parole, ils ont, peut-être que donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ils ont besoin qu'on leur parle de Dieu, peut-être d'une autre manière, qu'on leur parle de la parole. En tout cas, ils ont besoin d'entendre une parole de vérité. Bon, par exemple, j'ai une amie, on a une amie qui a, à la suite du Covid, elle avait des clients, elle a perdu son emploi, elle était en CDI, elle n'a plus d'emploi. Bon, et puis il y a des personnes qui ont une situation satisfaisante, qui n'ont pas de soucis, mais on sent bien qu'ils ont besoin de ça, même s'ils n'expriment pas ce besoin de manière claire, mais ils ont besoin qu'on leur parle de la parole. Je voudrais simplement prier maintenant. Seigneur, dans le monde où nous vivons, où l'espoir diminue à vue d'œil, où beaucoup de personnes sont comme dégoûtées, passives, sur la défensive, en colère, elles sont blessées, ou... donc elles tournent en rond, Seigneur, et toi, tu nous permets de ne plus tourner en rond, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, pour ce merveilleux cadeau, Seigneur. Merci pour l'Écriture. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui au XVIe siècle, par exemple en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Espagne, en Angleterre, ont donné leur vie pour toi, pour que cette parole soit transmise au péril de leur vie, Seigneur. Et ce qui me frappe dans ces personnages, Seigneur, qui étaient prêts à être torturés, brûlés vifs, Seigneur, qui ont donné leur vie, c'est ils marchaient droit, ils étaient droits. Et Seigneur, merci pour leur fermeté d'âme, pour leur solidité aussi psychique, Seigneur. Et puis bien sûr, leur connaissance de la parole. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, en 2020, non pas les imiter, mais Seigneur, nous voulons faire preuve d'esprit d'entreprise, Seigneur, de détermination, comme ils ont su le faire. Nous voulons, Seigneur, la parole à la main, parler de toi à nos compatriotes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à le faire avec tact, bienveillance, mais à le faire, Seigneur, au travail, à la maison, avec nos amis, avec nos voisins. Seigneur, tu fais tomber les verrous qui peut-être nous empêchent encore de le faire. Peut-être aller au-delà aussi de l'évangélisation, qui est pratiqué, mais Seigneur, que nous puissions trouver des nouvelles méthodes pour toucher les cœurs, Seigneur. Tu viens, Seigneur, voilà, aussi renouveler notre pensée et la pensée de nos compatriotes, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent sortir, que nous puissions sortir des vieux schémas, Seigneur, entretenus autour de nous. Mais Seigneur, que nous puissions inciter nos amis, nos voisins, nos proches, vraiment à retourner à la parole, Seigneur. Que nous soyons des facilitateurs dans ce domaine pour les inciter à lire ta parole. De par, d'ailleurs, notre comportement, de par notre attitude, notre savoir-être, Seigneur. La sagesse que tu mets à notre disposition. Tu as donné ta vie pour cela, Seigneur. Alors, Seigneur, que nous soyons remplis de ta sagesse pour aller de l'avant, Seigneur Jésus. Amen.